Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez La Pause Déj, un podcast produit et animé par Boomerang.
Et chez Boomerang, on a plein de passions. Déjà, trouver des vannes, là c'est pas le cas, et ensuite, manger ensemble le midi et parler de tous les sujets du social media. Et on a décidé de mettre des micros pour vous en faire profiter.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec des incroyables invités. Comme d'habitude, on va commencer avec Fadwa, qui est Social Media Manager chez Boomerang.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, Fadwa. On enchaîne avec David. C'est sa deuxième apparition dans le podcast. Bonjour, David.
Hello.
Il est lead social.
Eh oui, enfin, bien sûr, toujours, mais les gens le savent maintenant.
On l'a dit la première fois, on le découvre.
Ah, les gens le savent.
Et on a une incroyable invitée qui est Head of Account Management. Ouais, on est aux US ici. Et qui n'est d'autre que l'incroyable Olivia.
Bonjour.
Bonjour Olivia. Et pour finir, on va se présenter, puisqu'on oublie à chaque fois de se présenter. On est tous les deux les cofondateurs de l'agence. Moi, c'est David.
Et moi, c'est Pierre.
Et pour ce podcast, on va parler d'un sujet hyper intéressant. Non pas qu'avant, c'était chiant, mais là, c'est vraiment intéressant. C'est les influenceurs virtuels. Qu'est-ce que c'est que les influenceurs virtuels? Qui sont? Qui les produit? Quels sont un petit peu les enjeux autour de ça pour les marques? Bref, plein de choses à dire. On espère que ça va être intéressant et que vous allez kiffer autant que nous, on va kiffer. En tout cas, bon appétit.
Bon appétit.
Est-ce que vous avez vu, genre, je m'en suis rendu compte, je ne connaissais pas du tout ce sujet, mais alors vraiment zéro. Est-ce que déjà, autour de cette table, vous connaissez bien le sujet des influenceurs virtuels? Virtuels, c'est un sujet qui n'existe pas.
Je ne connais pas, mais virtuels, je connais un peu.
Ah, très bien. Bon, on va parler des virtuels. On parlera des virtuels dans un autre podcast. Vous connaissez les influenceurs virtuels, ça vous parle?
Ouais.
C'est quoi pour vous? Déjà, qui est capable, parce qu'en vrai, j'ai vogué sur Internet hier soir. Qui est capable de me donner une définition d'un influenceur virtuel? Qu'est-ce que c'est?
C'est en général des marques, des artistes ou juste des gens lambda qui sont forts en 3D, qui vont fabriquer un personnage et qui vont le balancer sur les réseaux pour devenir un influenceur classique. Donc c'est exactement la même chose qu'un influenceur, juste il est totalement fait en 3D. Et souvent, au début c'était vachement des influenceurs vraiment hyper classiques, genre lifestyle, beauté. Mais de plus en plus, c'est des influenceurs qui vont être hyper engagés sur des sujets qui sont un peu moins traités dans l'influence classique. Ça peut aller de la maladie à la santé mentale.
Qui a parlé notamment du Black Lives Matter.
Ouais, voilà. Donc ça va être beaucoup plus engagé. Mais c'est surtout des personnages en 3D qui ensuite sont mis en scène dans des photos, des reels, des machins, des vidéos. Voilà.
Un avatar 3D.
Mais pas une intelligence artificielle, attention, c'est pas la même chose.
Et pour toi, c'est la même chose, tu le mets au même niveau, entre guillemets, que des influenceurs classiques?
Ouais, pour moi c'est la même chose, parce que en fait, les gens vont s'attacher à une personnalité qui va être créée de toutes pièces, vont s'attacher évidemment à une esthétique, à quoi la personne, enfin le personnage ressemble, mais ils vont surtout s'attacher à une personnalité. Donc tu vas être influencé par cette personnalité parce que t'aimes bien ce qu'elle véhicule, ses valeurs, les sujets sur lesquels elle prend la parole, donc comme un influenceur classique, quoi.
Ok. David, toi, tu connaissais?
Ouais. Au début, ils sont beaucoup présentés justement comme une intelligence artificielle, et où il y avait une promesse qui était très haute, parce qu'on pouvait se dire c'est des gens qui vont... Enfin, une intelligence artificielle qui va capter aujourd'hui c'est quoi l'essence d'un influenceur et qui va le retranscrire dans un compte. Et en fait, on s'est rendu compte progressivement que c'était pas exactement ça, et que c'était plus un avatar 3D, et du coup, qui a suivi des tendances, mais qui n'était pas forcément identifié par une intelligence artificielle.
Oui, c'est plus des studios de création qui sont derrière plutôt que de l'intelligence artificielle. Et je regardais, moi, ce qui m'a fait démarrer tout ça, c'est une stat dont je vais vous parler après de performance. En fait, les influenceurs virtuels sont beaucoup plus performants que les influenceurs...
Ils engagent plus?
Trois fois plus. Mais je me rends compte, du coup, de ma non-connaissance, qui serait capable de me citer, genre, le top 5 des influenceurs virtuels aujourd'hui?
Facile.
Allez, vas-y, Pierre, t'as 30 secondes.
Je pense que j'en ai aucun.
Il y a une Brésilienne en premier.
Qui?
Lil Miquela, c'est la première, non?
Non, elle est deuxième.
Et moi, j'ai des stats de 2021, donc je vous écoute. Je veux 5 noms
la
et après,
première,
je vous donne la vérité.
La deuxième, c'est sûr, c'est Lil Miquela.
Une chinoise qui est en cartoon de ouf, qui ressemble vraiment pas à un humain.
Ah oui.
Nounouri.
Ah, mais vous en suivez vraiment?
Moi, je suis Nounouri et Lil Miquela.
Ok. Ah non, ouais, c'est dingue.
Et après, il y a. Non, après, j'en aurais pas.
Et moi, donc, j'en ai le top 3. La première, en 2021. Je vais regarder le nom pour pas l'écorcher, évidemment, tel un vieux.
Est-ce que c'est la brésilienne?
Magazine Luisa. Vous ne connaissez pas. Non. Et pourtant, elle a 5 millions d'abonnés sur Instagram.
Voilà, vachement.
C'est surtout le classement sur Instagram. Donc peut-être sur TikTok, les chiffres sont différents.
Mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup sur TikTok.
La deuxième, c'est effectivement Lily Michela, qui a 3 millions sur Instagram. Et le troisième, dont j'ai lu hier soir, en fait, qu'il a eu une montée fulgurante, s'appelle Nobody Sausage.
C'est la saucisse, oui.
Exactement. Qui a 8 millions sur TikTok.
Ah oui, j'adore.
J'adore. Et que 2 millions à quel moment les réseaux sociaux se sont transformés à ce que tu dises « Mais c'est la saucisse !» Bien sûr.
Mais pas la saucisse, la sauce, comme on l'appelle tous.
Ah oui, il y a pas le... Vas-y, David,
en France, il y a aussi... Il y en a un qui est un peu connu en France, qui est un renard.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le renard sur TikTok, là, le renard bleu.
Et qui avait fait beaucoup de choses autour de son face reveal et qui l'avait pas reveal, je crois. Ouais. Et qui a créé vraiment un personnage en 3D sur TikTok qui réagit aux trends, etc.
Dingue.
Mais c'est français.
C'est français et il a même fait une collab avec le gouvernement et tout. Hein,
ah
pour
bon
promouvoir le siège, le CEJ, un truc du gouvernement. Ils l'ont pris en tant qu'influenceur pour faire une collab. Parce qu'évidemment, il parle aux jeunes. Bon, il explique un petit peu ce qu'est le CEJ, mais comme c'est un avatar, ça peut être ultra dynamique, etc. Je sais plus comment il s'appelle ce renard, effectivement. Mais il est assez fort. Il faisait beaucoup de live à un moment. Mmh. Où juste il répondait à des gens.
Et ça, c'est ouf.
En live sur TikTok, il disait ça, je suis pas d'accord avec toi, Guillaume du 34 et tout.
C'est fort pour le faire en live. Ah, mais je vois de qui vous parlez. Et c'est un truc artificiel. Ah,
bah
oui,
ouais. En fait, c'est pas du tout. C'est pas un déguisement, c'est vraiment.
On est dans un podcast là.
C'est un renard bleu, David.
Oui, exactement. Non, mais moi je pensais que c'était un mec qui se filmait sur du fond vert et puis après qui fait un.
C'est genre. Harvey. De son prénom.
Jamais.
Je pense que ça va faire partie de notre avenir parce qu'on ira tous vers le métaverse et que le futur aussi de l'influence. Je pense pas que les vrais influenceurs vont disparaître, hein, mais je pense que ça va être une notion clé du métaverse et de notre manière de communiquer, pardon, sur le métaverse.
Mmh. Olivia, toi, tu les suis pas en perso ? Je suis sûr que si.
Non.
Oh,
ouais.
Oh, pas le du jugement tout. Que j'ai émis.
Non, ouais, pas du tout. En fait, je suis ce qui se passe dans l'univers parce que je trouve la technique vraiment très cool. Ouais. Je trouve ça assez ouf de le live surtout. Je trouve ça incroyable. Genre, c'est vraiment des techniques de même parfois de cinéma, de motion capture et tout. Et vraiment en live, c'est assez ouf. Mais par contre, j'aurais du mal à être influencée par. J'aurais du mal à me dire genre, oh, Lynn Michaela, elle est trop belle et j'avoue, elle a utilisé ce blush Dior et grave, je vais m'acheter ce blush Dior. C'est non.
Et tu penses que c'est générationnel ? Tu penses que ceux
mais
qui vont.
Est-ce que t'es en train de dire que je suis vieille ?
Oui.
Révélons l'âge des gens dans ce podcast.
Non, est-ce qu'on les suit vraiment aujourd'hui ou c'est plutôt demain on les suivra ?
En fait, c'est ça. La vraie question derrière ça n'étant pas de dire que tu es vieille, Olivia, mais est-ce que les plus jeunes générations qui sont nées, qui vont naître avec vont être influencées ?
Non, en fait, je pense pas. Je pense que ce qui va se passer, et c'est ce que disait Fado avec le métavers, c'est que demain, on aura tous un alter ego avatar. Dans le métaverse, sur lequel avec lequel on va se balader, et c'est vraiment ça va être notre alter ego virtuel, et que du coup on peut devenir influenceur avec cet avatar, mais pas des trucs créés de toutes pièces par un studio, par une agence ou par une marque, parce que ça sera du coup beaucoup moins authentique que en fait, je dis n'importe quoi, je sais pas, moi, Léna Situation, elle a son avatar, et les gens vont suivre l'avatar de Léna Situation parce que c'est elle.
Mais et du coup, ils vont encore suivre Léna, tu penses?
Mais peut-être qu'elle postera pas aux mêmes endroits et du coup tu auras un contenu complètement différent avec son avatar et un contenu différent avec elle dans IRL quoi.
Ouais. Peut-être très péremptoire sur le fait qu'aujourd'hui actuellement les gens ils les suivent pas pour les les chiffres ils montrent que par exemple il y en a qui les suivent pour leurs vêtements, pour leur musique,
Et
ils sont influenceurs à proprement dit quoi. D'ailleurs quand on parle d'engagement, trois fois plus d'engagement.
Mais c'est un point aussi que tu soulignais au tout début, c'est que quand ils les créent aussi, ils se basent quand même sur de l'inside consumer, de choses que les gens aiment, sur des sujets d'actualité qui sont hyper importants, alors qu'un influenceur lambda, je pense qu'il ne peut pas réunir autant de gens parce que tout simplement, tu es un humain, enfin, tu ne peux pas satisfaire à tout le monde. Alors que un avatar 3D, tu peux quand même faire en sorte de plaire vraiment à tout le monde.
Tu peux le modifier en fonction de la data que tu reçois pour qu'il plaise totalement à ton audience. Oui,
mais là où je suis un peu moins d'accord et je suis un peu d'accord avec David sur le fait que les gens les suivent beaucoup aujourd'hui.
Le clan des David.
c'est qu'en vrai, quand on regarde les commentaires qui sont sous les photos, par exemple de Lynn Michaela, il y a des gens qui vont dire oh, je t'aime, t'es tellement un modèle pour moi.
Oui.
Il y a des gens qui vont dire oh, je t'admire, j'aimerais trop être comme toi quand je serai plus grande. Alors que il y a vraiment des commentaires comme ça. Alors que c'est
Tu seras jamais comme Lily Bekela quand tu seras plus grande, tu n'es pas en 3D.
Mais elle sera jamais plus grande, elle non plus. Donc.
Mais parce que je pense, je me demande moi si ça. s'il y a en fait une réalité de c'est une personne virtuelle ou c'est une personne réelle, parce qu'en fait c'est une personne qui est dans certaines modes, qui a certains codes, et du coup eux ils vont se reconnaître plus dans ce code là et ils ont envie d'être ça plus tard. Et même si elle n'existe pas en tant que telle.
Non, mais ça, je suis d'accord, c'est la force des influenceurs virtuels aujourd'hui. Mais parce que Lil Miquella, elle a un truc particulier de, elle fait vraiment, enfin, elle est très poussée en termes de qualité. Alors que Nonori, par exemple, c'est vraiment un truc. Moche, quoi.
Ça a été fait exprès, d'ailleurs.
On pourrait presque la confondre avec une réelle personne, c'est
franchement,
ça.
Dans l'éditorial photo.
Mais moi, je me posais, enfin. Elle parle, c'est-à-dire elle fait des stories par exemple. Est-ce que c'est intéressant?
Elle a embrassé Bella Hadid dans une pub Calvin Klein.
Et j'allais en parler, c'est extraordinaire.
Embrasser Bella Hadid
dans une campagne de marque. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose d'anodin. Je dis ça avec le pain dans la bouche, personne ne comprend. Ça a fait des millions de vues et c'est pour soutenir en plus une cause particulière.
Ouais, je sais plus ce que c'était, mais oui.
Mais c'est et même Lil Miquella sur Instagram, elle a des amis qui sont réels. Où elle pose avec des amis réels, des choses comme ça. Et du coup, ça brouille constamment les pistes. Et en vrai, quand t'es sur le compte, tout le temps, tu te dis est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que c'est des 3D? Et t'as un peu cette ligne fine sur laquelle elle joue qui fait que le compte est toujours passionnant à regarder, peu importe les photos, quoi.
Mais je pense que ça va aller plus vers ça. Par exemple, la saucisse, là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est totalement pas ça. C'est juste... c'est marrant, tu vois des espèces d'animations un peu cheloues. Bon, on sait pas... Enfin, moi, je vois pas pourquoi
Nobody
lui...
Nobody Sausage,
ouais. Je vois pas pourquoi lui, plus qu'un... Enfin, cet avatar-là, plus qu'un autre, a fonctionné. Peut-être parce que les animations sont particulièrement bien faites.
C'est une saucisse.
Et peut-être parce que c'est une saucisse, ouais, je sais pas. Non, je suis en train de manger une saucisse purée, donc c'est hyper chelou. Mais Lil Miquella, c'est vraiment le truc, pour le coup, elle est tellement bien faite, tellement belle et tellement bien travaillée à chaque fois qu'il y a une photo
confusant.
Et tout. C'est, voilà, là, c'est un peu... Et je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui peuvent parfois ne pas savoir vraiment si c'est de la 3D ou pas. Et ça va aller de plus en plus vers ça.
Pour vous, c'est un problème? C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit statuer à chaque fois que... par exemple, dans tous les posts, ce soit notifié « Attention, cette personne est un avatar 3D ».
Comme on fait maintenant dans le milieu de la mode, avec « Attention, ça a été fait en Photoshop, ça a été retouché, etc. »
Je pense qu'il y a quand même des enjeux sur notre santé mentale. Enfin, Lil Miquella est tellement parfaite que ça serait quand même assez dérangeant de te dire que des jeunes aujourd'hui aimeraient lui ressembler alors que c'est littéralement impossible.
Mais
je pense qu'il y a quand même un jeu à jouer là-dessus qui est quand même...
Bah, tu pointes un vrai truc, c'est-à-dire que là... Alors, j'imagine qu'il y en a certains qui vont être créés autrement, mais elle, comme tu le racontes, elle est la perfection, c'est ça. En tout cas, tu peux toucher avec le virtuel la vraie perfection et mettre encore plus de complexe que juste faire du Photoshop, qui est déjà quelque chose.
Ouais,
juste faire de la retouche sur des photos, là, vraiment, créer des énormes complexes auprès des jeunes, plus jeunes générations.
Je sais pas, moi.
Non ?
Bah, en fait, si, je suis d'accord, oui, ça va créer des... Mais je trouve que en fait en 3D il y a toujours il y a le truc de l'uncanny valley où tu vas toujours voir dans les yeux du personnage que il y a un truc chelou et que c'est pas un humain.
On peut faire une pause et définir le terme que tu viens de dire?
Merci, parce que tout le monde a acquiescé comme si c'était totalement normal.
Moi j'ai compris le uncanny valley.
Uncanny valley c'est le syndrome de comment je peux l'expliquer? J'ai pas la définition exacte, mais c'est le syndrome de quand tu regardes c'est un problème qu'il y a toujours en 3D quand tu regardes un personnage qui veut être qu'on a essayé de faire le plus humain possible. Il y a toujours un truc qui te paraît très très bizarre quand tu le regardes vraiment, parce qu'en fait c'est pas un humain, juste c'est un truc complètement fait en 3D. Ça se voit dans les yeux souvent du personnage.
Mais aujourd'hui, est-ce que demain cette Unbali, ça va pas justement ça va justement disparaître et on va
je pense
et on
pas.
Va non tu penses pas tu penses que
non je pense
on
que ça sera...
jamais à être
je pense que tant qu'on vit dans un monde avec des humains et qu'on voit des humains tous les jours, on verra toujours quand même un truc chelou dans un truc
mais
en 3D.
Mais quand même, David disait dans les commentaires de Lil Miquella que... L'utilisateur disait « Waouh, je t'admire trop ».
Mais après, est-ce que c'est pas une question de l'âge de ces admirateurs?
Ça arrive depuis la nuit des temps. En vrai, c'est-à-dire que t'en as qui admiré des personnages de jeux vidéo, t'en as qui admiré des personnages
des
dessins animés, des mangas. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'admirais des personnages de dessins animés. Non,
qui
je vais pas vous dire. Bah, je sais pas. Moi, j'étais amoureux de.
Il s'est retenu, hein.
Non, j'étais amoureux de Princesse Mononoke, par exemple.
Normal.
Mais j'étais petit, etc. Et donc, j'imagine. Enfin, c'est le même processus. C'est pas nouveau, ça. Sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'on te le fait passer comme plus assez réel, parce que c'est dans un monde que tu connais.
Mais aussi, est-ce qu'il y a pas un truc dans le jugement? dans le jugement des jeunes et tout ça, où ils se disent, bah, en fait, les influenceurs aussi, d'une certaine manière, c'est pas réel, et c'est un peu une entité genre lointaine où ils nous montrent une facette de leur vie qui est vraiment pas réelle, et c'est pas ça la vraie vie. Et du coup, il y a un peu les deux choses sur le même plan, parce que dans tous les cas, c'est un idéal qui doit et qui ne sera rien d'autre qu'un idéal. Et donc, fatalement, on peut les comparer entre un influenceur réel et un influenceur virtuel, parce que dans tous les cas, ils n'existent pas vraiment dans la vraie vie, c'est juste une facette qui monte sur les réseaux sociaux.
Je suis absolument d'accord. Je pense que Lena Situation, elle est inatteignable pour la majorité des gamines qui la regardent, et c'est ça qui fait que les gamines la regardent, et c'est la même chose pour Lil Miquela, au final.
Et pour les marques, bonnes ou mauvaises pubs, aujourd'hui? Parce qu'il y en a énormément qui le font. Donc, votre avis, déjà, bonne ou mauvaise idée que d'aller voir les influenceurs virtuels quand on est une marque. D'ailleurs, pour fermer la parenthèse, c'est Calvin Klein qui avait fait une campagne pour la Gay Pride.
Ah oui, c'était
avec
Gay Pride.
Avec Michaela et
Ah, c'est
Adid.
Bien.
Ouais.
Donc, bonne ou mauvaise idée pour vous?
Pour moi, c'est une bonne idée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une hype autour et depuis... Enfin, tu vois, Michaela, c'est 2016. Je pense qu'il y a une hype autour, mais comme quand on parle NFT, blockchain, crypto, métaverse... Je pense que les marques ont tout intérêt à investir dedans, encore une fois, parce que je crois beaucoup en le métaverse. Je pense que ça va faire partie de notre avenir. Et les marques ont tout intérêt à se positionner là-dessus. Aujourd'hui, il y a une hype autour, on ne sait pas trop où on va. Mais je pense que, par exemple, LVMH a fait le bon choix en créant son avatar 3D. Parce que c'est dès maintenant qu'il va falloir se lancer, parce que c'est dès maintenant qu'on va être dans ce test and learn, et que le métaverse va arriver très, très vite, et que... Ça va être, je pense, un de nos futurs moyens de communication. Et même tout, nous, en tant qu'agence, ça va être des grosses questions à se poser.
Pourquoi ces influenceurs, c'est la porte d'entrée vers le métaverse?
Plus que manière de communiquer.
Eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Pour les marques, je veux dire. Tel que tu le racontes.
Ouais, pour moi, ouais.
Ok.
Ouais.
Mais aujourd'hui,
je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que c'est... Et d'ailleurs, c'est un peu la même réflexion que le métaverse ou que les NFT. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un impact réel ou est-ce que ce n'est pas un coup RP? Quand t'es une marque et que tu fais une OP avec une influenceuse ou un influenceur virtuel, ce que t'attends, c'est des retombées presse de « Ah, c'est les premiers à avoir fait ça » ou « Ah, Nike a fait ça », etc. Pour l'instant, c'est plus que ça, plutôt que le vrai impact d'une campagne de communication.
Oui et non, parce que si tu regardes justement les chiffres d'engagement de ces influenceurs virtuels, t'as des vraies retombées.
Quand même,
et quand c'est le tien, quand c'est toi la marque qui a lancé cet influenceur et qu'il a cette valeur-là sur le marché... Bah, t'as quand même tout gagné, quoi. Donc, oui et non. Par contre, moi, je suis pas trop d'accord sur le fait que c'est l'entrée vers le métaverse. Je pense que c'est pas... Pour le moment, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, je pense que c'est un excellent moyen. Et il faut que les marques aillent dessus.
Oui, c'est pas du tout une entrée vers le métaverse. Mais que ça va être un de nos moyens de communication à nous... dans le métaverse.
Mais je pense que parce que quand t'es une marque, c'est comme quand t'as ton... Je sais pas, t'es une marque de fringues, t'as ta boutique. Quand les gens viennent dans ta boutique, et ben ils rentrent dans ton univers. Et ben demain, ils vont rentrer dans ton univers virtuellement. Et si t'as un influenceur, t'as créé un influenceur, effectivement, comme LVMH, qui fait rentrer les gens à travers une nouvelle porte dans ton univers, mais t'as tout gagné. Il faut absolument aller dessus. Et de toute façon, les gens sont en ligne constamment. Donc oui, évidemment, il faut que tu les embarques d'une certaine manière.
Ouais.
Et en plus, effectivement, en ce moment, ça fascine tout le monde. Donc il faut absolument pas s'en priver. Ouais. Mais il faut le faire bien. Il faut pas juste le faire pour se dire « j'ai fait un influenceur ».
Il faut le faire maintenant.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est maintenant que ça commence.
On est en plein dedans.
Ça a commencé déjà.
Oui, mais je veux dire...
Non,
là,
faut
France,
y aller.
En tout,
ouais.
En tout cas, le wagon, il est.
Il est, oui, il est en route.
Calvin Klein, c'était en quelle année? 2017
Laquelle Calvin Klein? J'ai pas l'info. Je vais regarder.
Je crois que c'était plus récent que ça. Je crois que c'est 2018 ou 2019, un truc comme ça.
Donc déjà. Hein.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, surtout, c'est le faire bien. Parce que le problème, c'est un peu comme les NFT, un peu comme la blockchain, un peu comme plein d'exemples. Les gens s'en servent que comme une image pour incarner l'innovation. Alors que toutes ces technologies-là, c'est des moyens pour faire des choses. Et aujourd'hui, on s'arrête juste avec l'image qu'ont ces technologies, plutôt que vraiment profiter de tout le potentiel énorme que ça peut créer en termes de storytelling de marque, en termes de serait-ce que de moyens technologiques. Et aujourd'hui, on est un peu trop limité à se dire, on va créer un avatar et ça s'arrête là. Alors qu'on peut en faire vraiment beaucoup de choses, comme on peut faire beaucoup de choses avec des NFT, et on peut juste aussi faire des JPEG et que ça ne serve à rien. Et je pense que c'est un débat qui est assez proche quand même.
Ouais.
Et c'était en 2019, Calvin Klein et...
Donc quand même, hein.
Comme ils étaient assez en avance, hein.
Ah ouais, et au-delà de ça, c'est une super campagne.
Ouais, la campagne est trop, trop bien.
Et pour vous, c'est quoi le mieux aujourd'hui pour des marques? C'est d'aller être en collaboration avec des influenceurs virtuels qui existent, donc là, l'exemple qu'on donne, ou l'exemple que tu as donné Fadois, c'est-à-dire LVMH qui va créer son propre avatar virtuel. J'ai vu que Prada avait fait aussi la même chose, d'autres marques. C'est quoi l'avenir? C'est d'aller se greffer ou finalement de créer son propre prolongement de l'univers de la marque?
Je pense que c'est, il y a pas un qui est mieux que l'autre parce que c'est deux moyens qui ont des objectifs différents. On peut prendre des ambassadeurs de marque et les faire devenir, enfin des vrais humains, et les faire devenir des ambassadeurs de marque sur 20 ans qui vont incarner la marque. Et on peut prendre des influenceurs de temps en temps pour une campagne et pour amplifier une campagne. Et je pense que le débat, c'est le même là. C'est est-ce que sur le virtuel, on prend une personne qui va incarner uniquement notre marque? Ou est-ce qu'on va toucher des communautés grâce à un influenceur qui a déjà sa communauté créée, qui va avoir une identité qui va être intéressante pour nous à ce moment-là pour la campagne? Et c'est en ça que ça peut être intéressant, les deux solutions, je pense.
Comme le vrai marketing d'influence.
Oui, comme ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des clients. C'est-à-dire, parfois, on va demander à des influenceurs de venir sur nos comptes pour faire grandir notre compte et faire en sorte de nous-mêmes devenir des influenceurs, entre guillemets, ou d'être influents sur les réseaux. Et parfois, quand il faut taper un grand coup très très fort, on va aller activer des influenceurs sur leur réseau.
Après, à la différence que quand on crée son propre avatar et qu'on est une marque, on peut lui faire dire littéralement ce qu'on veut. Là où un influenceur, il y a toujours la barrière humaine existante, oui, qui dit que l'influenceur peut dire non. Là, l'avatar ne peut pas dire non. C'est ce qu'on veut lui faire dire, quoi.
Pour le moment.
Et alors, ça me pose la question...
Oh, c'est ultra badant, ça.
Ça pose la question de qui, justement, est derrière ces avatars. Est-ce que vous connaissez les studios qui, aujourd'hui, produisent, enfin, sont à l'origine? Est-ce que c'est, pour vous, des studios qui sont connus ou c'est encore totalement méconnu?
Bah, ça dépend...
Par exemple, qui produit? Qui est derrière Lili Michela?
C'est deux directeurs artistiques, ouais, qui étaient dans un studio, je crois, mais qui se sont lancés sur ce projet-là à deux, quoi.
C'est Brud.
Je sais plus comment il s'appelle.
Ça s'appelle la start-up Brud.
Brud.
Mais tout le monde peut le faire, en fait. C'est juste, il faut... Enfin, tout le monde peut le faire. Il faut savoir faire de la 3D, quoi.
Mais je pense qu'on arriverait à le faire comme, par exemple, un Spark AR où aujourd'hui, on nous donne les possibilités de créer des fils. Parce que demain, il y aura des plateformes qui nous permettront de créer des...
Ton avatar, ouais. 3D. Bah, c'est le cas pour Horizon. Enfin, Facebook fait ça, c'est-à-dire que tu vas arriver. C'est le but, en fait, des métaverses qui sont lancés, qui sont pas vraiment des métaverses aujourd'hui, mais c'est si tu viens sur ma plateforme, tu te fais ton propre avatar, t'achètes tes propres skins, enfin, comme dans un jeu, en fait. Mmh. Donc oui. Après, pour les réseaux, là, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que c'est plein de gens de n'importe où dans le monde qui inventent un personnage de toute pièce, qui le modélisent tout seul. Et ça, je trouve ça très cool. Je trouve ça même plus cool qu'une marque qui le fait elle-même. Parce que bon, du coup, je trouve que la marque qui le fait, bon, bah, tu t'attends à ce que, bah, l'avatar te pousse les produits de cette marque, te pousse les valeurs de cette marque qui sont parfois bonnes, parfois non. Alors que je trouve que vraiment des artistes qui ont une vision, c'est beaucoup plus intéressant à suivre que juste un ambassadeur de marque, quoi.
Mais du coup, c'est quoi le business model de ces artistes derrière? C'est de vivre à travers leur création ou que ce soit genre un produit d'appel pour qu'après d'autres marques viennent faire appel à eux pour leur création?
Bah, je pense un peu des deux, mais Lil Miquela, enfin moi, de ce que j'en ai compris de Lil Miquela, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment un projet à part entière. Je crois qu'il y a même assez différent de ce qu'ils font pour les marques et de ce qu'ils faisaient pour les marques, même si sûrement ils ont dû être appelés pour en faire plus, quoi. Mais qui est vraiment un projet pour eux qui tient tout seul. Et aujourd'hui, Lil Miquela, elle a ses collabs avec les marques, elle fait sa vie d'influenceuse.
Elle gagne de l'argent.
Mais par contre, je pense que c'est un travail monstrueux parce que chaque vidéo, chaque photo, c'est une nouvelle façon de voir l'avatar. Il y a plein de trucs à fabriquer à chaque fois que tu fais un nouveau poste. Donc c'est un vrai gros travail, mais qui se rémunère, je pense, maintenant très 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 bien.
C'est quoi pour vous les gros aspects négatifs de, entre guillemets, les grosses contraintes ou les grosses limites plutôt, parce que négatifs, il y en a beaucoup, mais les limites des influenceurs virtuels en règle générale?
Je pense qu'on l'a un peu dit au début, je crois que c'est toi qui disais, Fadois, l'authenticité où t'as toutes les plateformes qui ont ce même discours et probablement à raison de on veut un contenu authentique,
humanisé.
On regarde plus la télé parce que c'est surproduit, donc on va sur les réseaux justement pour ce truc authentique. Est-ce que là, on perd pas un petit peu cette totale authenticité avec cette typologie d'influenceurs qui arrive?
D'autres limites que vous pouvez voir?
Bah, ça coûte hyper cher et c'est hyper chronophage à fabriquer, quoi.
Pour les studios à l'origine de ça. Si on doit finir sur une note positive, est-ce que vous êtes capable de nous donner, pour ceux qui nous écoutent, des exemples d'influenceurs virtuels, j'arriverai jamais à le dire, hein, qu'on peut suivre.
Virtuels.
Ouais, d'influenceurs du métaverse qu'on peut suivre.
C'est pas le métaverse.
Non, pas de métaverse.
À nous ou les
oui,
gens
oui,
qui
oui,
écoutent.
Oui, oui, vous.
À nous, ok.
Écoute. Alors vous écoutez.
Bon, bah, y a
non, mais
c'est quoi
en commentaire, non bah non, bah, à part l'île Michaela, moi je trouve que c'est la meilleure application aujourd'hui. Mais,
Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux que vous suivez au quotidien qui peuvent être intéressants à aller voir pour la curiosité?
Non, mais je rajouterais Nounouri, qui du coup a un autre aspect,
ouais, c'est une autre...
moins humain.
Et celui dont on parlait, justement.
Le renard.
Moi j'ai que Harvey.
Harvey.
En tête.
Qui est en vrai, parce qu'il fait du live, est intéressant d'un point de vue
ouais,
technique.
Ça, c'est ouf, je vais aller voir.
Ouais.
Et il y en a un autre, j'ai plus du tout son nom, mais c'est un espèce de robot qui se balade sur une lune, sur la lune.
Ça, c'est ton rêve d'hier soir.
Et qui est en live tout le temps, c'est pareil. C'est un espèce de robot tiré d'un dessin animé, il faudrait que je retrouve son nom. Et en fait, ouais. Juste, il marche sur la lune et répond à des commentaires en live. Ouais, c'est très marrant,
ça
fait un peu flipper. Mais
et il parle,
mais sur quelle
ouais, il parle avec une voix de robot, quoi. J'allais l'imiter. je suis malade, donc je pense que ça suffit, là. Mais il parle vraiment, ouais. Donc,
et c'est sur TikTok, ça?
C'est sur TikTok, exactement.
Ah,
c'est un français.
Ah ouais?
Ouais, il parle totalement
et
en français.
Écoutez, dans les commentaires, dites-nous le nom de ce robot qui marche sur la Lune, ou sinon, dites-nous que Pierre est fou. Ça marche aussi. Et ben, merci à tous pour ce podcast.
Merci
beaucoup. Merci.
À très vite.